pas débordé. Voilà. Donc, je vais vous proposer une petite promenade en terre de Lucien. Et puisque nous parlons de dialogue, il est évident que la structure dialogique est au fondamental, absolument fondamental chez Lucien. Et que même dans les textes qui ne sont pas des dialogues, car il y a beaucoup de textes, comme vous savez, qui sont écrits comme des récits, voire comme des romans, même dans ces textes, vous avez sans cesse création de dialogues. Par exemple, dans les histoires vraies, les personnages parlent, bon, ça c'est pas une originalité, mais les histoires vraies sont construites aussi comme un dialogue avec le public. Si vous regardez dans la petite liste de citations que je vous ai donnée, la première, vous allez voir comment se présente l'œuvre. Il va vous dire, je prends à partir de l'endroit où j'ai écrit en gras. Donc, Kai, Ton, Istorumenon et Caston, chacun des points que j'ai racontés, Enictai se présentera comme une énigme. Huc Accommodetos, qui n'est pas dépourvu de comédie, et on est déjà dans notre sujet. Prostinas, donc une énigme renvoyant à certains des anciens poètes, des anciens écrivains, des anciens historiens ou des anciens philosophes, qui ont raconté Pola Terastia Gaimutode, beaucoup de choses monstrueuses et légendaires. Ous An Egraphon, que j'aurais écrit onomasti en donnant leur nom, Eimé, si Emelon, si je n'avais pas voulu, Faneistai, qu'il t'apparaisse, Kayotosoi, à toi, dès la lecture. Et on est bien ennuyé des fois, parce que parfois on n'arrive pas toujours à voir les allusions. Mais vous voyez que c'est un dialogue avec lui qui nous invite. Et un petit peu plus loin, je prends la deuxième citation des histoires vraies, je prends juste la fin. Graphotonie, vous voyez, j'écris donc au sujet de choses que je n'ai jamais vues, mais Théidon, ni vécues, ni apprises d'autrui, des éti en plus des choses qui n'existent pas du tout et qui ne peuvent même pas exister. Dio, voilà pourquoi, il faut que tous aient une canontas, et c'est le mot qui m'intéresse ici, que ceux qui les rencontrent, medamos pisteinotois, ne leur accordent aucun crédit. Donc, comment présente-t-il les gens à qui il s'adresse? Comme des gens qui viennent à sa rencontre, nous, les auditeurs. Et ce qui est assez amusant quand on regarde les éditions de Lucien, c'est que les scoliastes se sont piqués au jeu et ont écrit. Et on a des commentaires, par exemple, dans les histoires vraies. Et toi, bouffon, charlatan, que mérites-tu en raison de tes mensonges? Ou un peu plus loin, et toi, impertinent, la glace échauffée par le feu devrait fondre. Comment n'avez-vous pas été tous noyés? Ta fiction est incroyable et contredit la nature. Donc, le dialogue s'engage. Mais bien sûr, ce n'est pas dans cette direction qu'on va regarder. Encore que, je vais prendre un dernier exemple où il interpelle son public. C'est un texte assez court qui s'appelle « Sur les dipsades ». C'est présenté comme une prolalie. Prolalie, c'est bavardage préliminaire, c'est une sorte d'introduction ici. Et dans ce bavardage, il vient de parler des dipsades qui sont des serpents, dont parle également Lucain, des serpents qui piquent et qui donnent une soif épouvantable aux gens. Et la métaphore de la soif, on va la filer assez longtemps dans notre exposé. Donc, c'est la soif aussi qu'éprouve l'auteur pour le désir du lecteur. Et je vous traduis rapidement le début. Donc, il me semble que j'éprouve, à votre égard, une soif dont sont atteints aussi ceux qui ont été mordus par la dipsade. Plus je m'approche de vous, osso epsplayon pario esumas, plus je désire le faire. Une soif insupportable me brûle, et il me semble que je ne serai jamais rassasié d'une telle boisson. Et je saute quelques lignes, et je prends les trois dernières lignes. Puis seulement, et toute la métaphore de l'eau, le courant qui coule de vous à moi ne pas se tarir, et le désir d'entendre que vous versez sur moi ne plus me laisser bouche ouverte et altérée. Donc, nous retenons cette métaphore de la soif, et maintenant, nous en venons au dialogue même, donc de Lucien. Non plus Lucien et nous, mais les dialogues proprement dit. À plusieurs reprises, Lucien fait le bilan de son œuvre. Et notamment dans les textes que vous avez au programme, dans la double accusation, il y a le moment où il dit « J'ai pris avec moi dialogue et je lui ai adjoint comédie ». Vous avez la citation que j'ai reprise, mais vous la connaissez bien, c'est dans le chapitre 34. Donc, « Prenons avec moi paralabone, prenons avec moi dialogue ». Qui paraissait à la plupart des gens sinistre et squelettique, qui ne plaisait pas à la foule, j'en passe un peu, et puis passide ten comoidan auto pare zeuxa. J'ai attelé, et vraiment l'image de l'attelage, on la reverra également, j'ai attelé à lui la comédie, et je lui ai fait obtenir une grande faveur à cause de cette alliance. Cette image de dialogue attelée à comédie, on va la retrouver à plusieurs reprises dans son œuvre. Il y a une petite pièce assez peu connue, très courte, qui s'appelle « Tuer un Prométhée dans tes discours », que vous trouvez à la deuxième page. Donc dans cette pièce, il y a à peu près 5 pages, et il s'adresse à quelqu'un qui lui a dit cela. Et il dit « Pourquoi suis-je un Prométhée ?» Et dans l'image de Prométhée, il va d'abord voir l'image du Créateur. Donc, il est très flatté qu'on l'appelle Prométhée. Il feint d'abord de croire que c'était une insulte. Puis il dit, s'il t'a comparé à Prométhée, c'est à cause de... Et là, je vous invite à bien regarder les mots que j'ai mis en gras en plus. C'est à cause de to canurgon, tuto epainon. C'est pour louer ce que tu fais de neuf, canurgon, kai me memine menon, qui n'est pas imité, prosti allo archétupon, en se référant à quelques modèles anciens, on peut presque dire archétypes, Osper et Kainos, comme Prométhée de son côté, ou comme ton anthroponteos, alors que les hommes n'existaient pas encore, et Noessas tous les ayant imaginés, Anéplacène les a fabriqués. Donc, il est très fier, évidemment, de ce compliment qui le montre en créateur, et il est intéressant, puisqu'on parle sans cesse, et on en parlera tout à l'heure, de la mimésis chez Lucien, de voir qu'ici, il ne veut pas se présenter sous le signe de la mimésis, mais sous le signe du kainos, kainurgon, et disant « je n'ai rien imité, mais mimenon ». Donc c'est un moment clé, assez rare, hein, dans l'œuvre de Lucien, de voir qu'il dit « je n'imite pas, je crée ». Or, si on continue la même pièce, « tu es un Prométhée », tout de suite après, il va nous dire « en quoi est-il novateur ?» Et c'est ce que je vous ai mis un petit peu après. Il va dire donc la réunion de deux choses. Et il va dire, c'est parce que, il revient sur cette idée, c'est parce que j'ai uni la comédie et le dialogue. Donc je reprends avec vous le début de la citation. Donc ce n'est pas à partir de deux, ce n'est pas le fait, synkaistai, de faire un tout à partir de deux réalités très belles, le dialogue et la comédie. Même cela, donc, ne suffit pas pour produire la beauté si le mélange, mixis, n'est pas harmonieux et harmonios, et n'est pas fondé sur la proportion symétrion. Il dit que parfois, il peut y avoir l'association de deux belles réalités qui donnent quelque chose de bizarre, il vous dit à Locotone dans le texte, comme par exemple l'hypocentaure, que vous avez dans le passage, il vous dit faire un hypocentaure, ce n'est pas bien, mais il vous dit, mais quoi ? Inversement, donc tioun, mais quoi ? Inversement, empaline, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une beauté fondée de deux choses excellentes, et une métaphore qu'on va retrouver aussi, comme le mélange délicieux du miel et du vin. Je dis que oui, Fémi et Goguet. Il en vient donc alors à définir l'un par rapport à l'autre, dialogue et comédie. On va mieux comprendre ce qu'il veut dire, c'est plus clair que dans le texte que vous avez au programme. Qu'est-ce qu'il va dire ? Au départ, donc c'est le texte que je vous donne, ou pas Nugun, hein, à l'origine, dialogue et comédie n'étaient pas familiers ni amis, puisqu'il est vrai que lui passait sa vie chez lui tout seul, ou par Zeus à marcher de long en large, c'est le dialogue péripatéticien avec quelques amis, tandis qu'elle, s'étant donnée à Dionysos, fréquentait le théâtre, jouait avec lui, faisait rire, raillait, marchait parfois au rythme de l'otos, de l'olos, voituré sur des maîtres anapestiques. Elle raillait les amis du dialogue, les surnommant penseurs, observateurs des hauteurs et autres mots de ce genre. Et vous avez toute une série d'allusions aux nuées. Tandis que, je reprends 4 lignes avant la fin de mon extrait, au dialogue osdé, le dialogue au contraire rendait ses rencontres solennelles en philosophant sur la nature et la vertu. Pourtant, nous avons osé allier ces deux genres l'un avec l'autre et les associer, alors qu'ils n'obéissaient pas du tout et n'acceptaient pas facilement cette communauté, c'est vraiment cette alliance. Donc on comprend maintenant un peu plus clair ce qu'il veut dire. Donc ce qu'il appelle le dialogue traditionnel, c'est le dialogue philosophique, donc celui avec ses épines comme un hérisson, et la comédie étant présentée de manière un petit peu systématique et caricaturale, comme passant son temps à se moquer de la philosophie. Or, Lucien déclare donc que ce qui fonde son innovation, alors que pourtant il s'inscrit dans la mimésis, c'est d'avoir réussi la mixis, il emploie le mot mixis, il n'emploie pas le mot crassis, mais le mot est quand même intéressant. On reparlera des métaphores de Mixis et de Crassis tout à l'heure. Donc d'avoir réussi le mélange de ces éléments qu'il donne comme étrangers et surtout hostiles l'un à l'autre. Donc le dialogue de Lucien tel qu'il le veut, c'est donc une nouveauté, et on va maintenant essayer de voir si on peut définir à quoi il ressemble. Donc la variété des dialogues chez Lucien est immense. Vous avez certains qui sont des dialogues purs, qui sont des petites scénettes, sans autre ambition que de mettre en scène des personnages. Donc on trouve des recueils qui s'appellent dialogues. Alors vous avez dialogue des morts, dialogue des dieux, dialogue marin, donc des dialogues qui voient se mettre en scène des figures historiques ou mythologiques, où vous avez des types sociaux, et le plus célèbre, c'est le dialogue qu'on appelait dialogue des courtisanes, je propose dialogue des étailles pour garder quelque chose qui ne soit pas trop ressemblant à la société française du 19e siècle, mais sont les étailles, ça leur donne un aspect un peu plus exotique. Donc, des petits dialogues. À l'autre extrémité, vous avez des dialogues qui se veulent complètement philosophiques, qui sont des débats dans lesquels la mise en scène compte très peu. Ces débats, vous en avez un grand nombre, par exemple le parasite. On va réfléchir sur le paradoxe. Être parasite, est-ce que c'est finalement faire un métier, et même un métier social? Le plus important, le dialogue le plus philosophique, sur lequel je reviens tout à l'heure, c'est le dialogue de l'Hermotimos. Est-il possible de philosopher? Peut-on choisir une école ou une autre école? Mais la plupart des dialogues sont intermédiaires, justement comme Lucien le revendique. Et dans les œuvres que vous avez au programme, c'est particulièrement évident. La plus évidente, c'est peut-être Le Pêcheur ou Les Ressuscités. Donc vous vous rappelez, il s'ouvre sur une bousculade, une poursuite à l'imitation des Acarniens, et il se termine avec la course des philosophes qui essayent de venir avoir de l'argent et la fameuse pêche du pêcheur qui essaye de les appâter du haut de l'acropole. Donc, nous avons dans ces dialogues quelque chose de très riche qui nous montre de manière successive ou concomitante une histoire, intrigue, un dialogue et la diatribe. Donc, le mélange des scènes de pure comédie donc, qui encadrent des développements donc beaucoup plus sérieux. Donc, un échantillon très large de dialogues. Alors, la question s'est posée de savoir, c'est très scénique, si ces pièces avaient été jouées. Et la réponse qu'on donne en général est une réponse négative. Peut-être des gens se sont amusés, certains auditeurs se sont amusés à les adapter, et ce matin on disait qu'on a pu jouer des dialogues de Platon, donc pourquoi ne pas jouer également des dialogues de Lucien? Mais il est évident qu'ils ne sont pas faits pour être joués, mais pour être lus, car on note l'importance des vocatifs. Les personnages n'arrêtent pas de nommer leur interlocuteur, qui fait comprendre le changement de personnage. S'il y avait plusieurs acteurs, il suffirait de les nommer les premières fois, et ensuite on saurait qui parle, par exemple, de la pièce qui s'appelle l'Anacharsis. Je dis la pièce, mais on est déjà quand même dans le théâtre. Il y a 47 répliques et 36 vocatifs. Donc vraiment, les personnages n'arrêtent pas de se nommer. On remarque également que beaucoup d'interventions des personnages fonctionnent comme des didascalies. Et vous avez cela dans les pièces au programme, par exemple Le Pêcheur, je vous ai mis le petit extrait, ce que dit la prêtresse. Donc voilà, il a déléassas toam kistron, il a appâté l'hameçon avec une figue, iscadi, caito crucio et avec l'or, et assis sur le sommet du mur, il le fait descendre vers la cité. Donc ce sont des didascalies qui font bien voir qu'il n'y a pas besoin de jouer. Donc, des pièces qui ne sont pas jouées, mais qui quand même font se rencontrer plusieurs genres. Et ce qui se rapprochait peut-être le plus de cette création de dialogue nouveau, c'est le mime. Et mon père a beaucoup montré l'influence du mime. J'ai pris juste un petit exemple pour vous faire voir l'importance du mime. Vous avez la scène célèbre, donc l'idylle des Syracusaines de Théocrite, qui est une scène de mime, donc vous connaissez bien le début. Donc c'est les deux dames, donc l'une qui vient voir l'autre, donc Gorgo qui dit « Praxinoé à la maison, à ma chère Gorgo, ça faisait longtemps, oui je suis là, mais même maintenant, quelle chance que tu sois venue, Enoa, c'est la petite servante, trouve-lui un siège, mais un coussin. Quelle folie, c'est à peine si je m'en suis tirée vivante pour vous rejoindre, une telle foule, tant de voitures, partout des bottes, des hommes en chlamydes, et la route interminable, tu habites toujours plus loin. C'est la et l'autre réponse, c'est la faute de se détraquer, c'est son mari, Toto Pararos, Tenos, donc c'est la faute de se détraquer. Il a pris au bout du monde un trou, non une maison, une tanière, un iléon, non une maison, pour que nous ne soyons pas voisines. Donc voilà un échange, un exemple de mine, et je vous ai pris pour comparer un tout petit extrait du début du dialogue des États, et vous allez voir, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est exactement le même ton, sauf que ce n'est pas en vers. Je reviendrai sur les vers tout à l'heure. « Eitina oista baki graon » si tu connais une vieille femme, donc baki, c'est une de ces vieilles si nombreuses qu'on appelle thessaliennes, qui font des incantations et qui rendent désirable même une femme qu'on déteste beaucoup. « Sois bénie si tu m'en amènes une, car je renoncerai volontiers à ses vêtements, à ses bijoux. Si seulement je voyais Carinos me revenir, Anastre Santa, et détester Simike, c'est celle avec qui il est parti, comme il me déteste maintenant. » Et l'autre, « Tifes, ou Ketif Zeneste, que dis-tu? Vous n'êtes plus ensemble. » On pourrait continuer. Donc vous voyez le ton, et ce n'est pas la même métrique, il n'y a pas de métrique, mais le ton a quelque chose du mime. Nous parlons de... j'ai pris exprès cet extrait parce qu'il met en scène des histoires de sorcellerie. J'ai parlé de Théocrite, et vous connaissez également les magiciennes dans Théocrite. Et le lien, le thème de la sorcière, est également, bien sûr, à rapprocher de l'aspect élégiaque également de ces pièces. Bon Père suggère aussi, comme influence dans ses dialogues, l'importance du drame satirique. Et là, je vous ai pris un petit dialogue un petit peu osé, un petit peu salace, qui est dans les dialogues marins. Donc, c'est Triton a repéré une jolie fille, et il la ramène, enfin, lui et Poséidon se mettent en embuscade pour essayer de séduire la jeune fille. Donc, la jeune fille qu'ils appellent Amymone. Donc, c'est l'extrait 10. Donc, la voici près de toi. Déjà, c'est Didascalie. Donc, ça a commencé au milieu de la mer. Donc, ils sont arrivés. Et voici la fille qui arrive, qui vient chercher de l'eau. Donc, elle est belle, Triton. Quelle belle fille, Triton. Et toute jeune, nous devons nous en emparer. Alors, sans doute enlèvement. Donc, Anthropée, je choisis de traduire par monsieur. Monsieur, tu m'as enlevé. Où m'emmènes-tu? Tu veux me vendre comme une esclave? Je crois que c'est mon oncle Égyptos qui t'a envoyé. Je vais crier pour appeler mon père. Tais-toi, Mimoné, c'est Poséidon. Que dis-tu, Poséidon? Pourquoi me fais-tu violence, monsieur? Pourquoi m'entraînes-tu dans la mer? Je vais me noyer, malheureuse, si je m'enfonce dans l'eau. Courage, t'arrête, il ne t'arrivera aucun mal. Donc, vous voyez un petit épisode qui est un petit peu scabreux et que mon père rapproche donc de ce que pouvait être, on n'en sait pas grand-chose, le drame satirique. On remarquera donc que tout cet héritage se mélange, ces héritages se mêlent, et nous arrivons à la comédie, qui va être l'influence la plus grande et qui domine fondamentalement. Mais on notera que ce qui distingue les textes de Lucien de la comédie, c'est qu'il n'y a pas de progression dramatique. Les scènes n'amènent en général aucun retournement. Alors je vous ai pris une jolie petite scène dans le dialogue des Étaires, c'est ma citation 11. Donc c'est la mère qui est un petit peu maquerelle sur les bords, donc qui va pousser Corinna, sa fille, à vendre ses charmes. Alors, le début, là, je vous donne le début de la pièce. Donc, la mère, alors Corinne, ce n'était pas aussi terrible que tu pensais de passer de l'état de vierge à celle de femme. Tu le sais maintenant. Tu es allée avec un beau jeune homme et tu as gagné ton premier salaire, une mine, sur laquelle je vais t'acheter tout de suite un collier. Alors Corinne, oh oui, petite maman, naï ma Marion, je voudrais qu'il ait des pierres, couleur de feu, comme celui de Philainis. Il sera pareil. Mais écoute-moi, j'ai encore à te parler de ce que tu dois faire avec les hommes. Et elle pleure parce qu'elle n'a pas d'autre moyen de vivre. Oh ma caritas sous pater, ton pauvre père, je crois du pauvre père, comme on dit pour signer qu'il est mort, le texte dit ton bienheureux père. Donc il est mort. Je passe un bon morceau du dialogue. Ensuite, donc, elle pousse sa fille, elle lui dit « Tu pourras m'entretenir. » Je saute encore un petit peu pour ne pas prendre très longtemps. Et donc, en haut de la page 4, vous avez « Comment faire pour gagner la vie ?» Elle lui dit « Sunusa tois neanis tois. » En allant avec les jeunes gens, en buvant avec eux, « Sunpinusa kaisun katedusa » et en dormant avec eux contre salaire. Corinne dit « Comme la fille de Daphnis, Lyra, oui, mais c'est une étaire. Ce n'est pas grave. » Tu t'enrichiras comme elle, tu auras beaucoup d'amants, et un joli jeu de scène. Ti et Dacrusas, au Corinna, pourquoi pleures-tu? Corinne, Et donc, on a le petit retournement et la fin de la pièce. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je lis simplement les deux dernières lignes. Un une d'appétit. Maintenant, va te laver. S'il revient aujourd'hui, le jeune Critos, il l'a promis. Donc, voyez, la petite scène ne ménage aucune progression. C'est un petit croquis, sans plus. Une exception notable est à faire avec Timon. Timon est vraiment construit comme une comédie. Je vous ai mis quelques extraits, on ne va pas tout regarder. Je résume rapidement. Il y a un prologue. Donc le prologue se passe en Attique. Donc l'histoire de Timon, vous la connaissez. Timon s'est ruiné pour ses amis. Ses amis l'ont abandonné une fois qu'il est devenu pauvre. Et de colère, il s'est retiré à la campagne. Et il passe son temps à bêcher le désert. Donc la première scène, c'est vraiment le prologue, ce sont les plaintes de Timon. Donc c'est ce que vous avez dans l'extrait 12, je ne vais pas le relire maintenant. Vous avez ensuite un premier épisode, c'est vraiment comme une comédie. Premier épisode sur l'Olympe. Il y a deux dialogues, entre Zeus et Hermès d'abord, puis entre Zeus et Ploutos ensuite. Zeus intervient, envoie Ploutos révéler à Timon la présence d'un trésor dans sa maison. L'action est parfois interrompue par un peu de diatribe, dans l'histoire, pourquoi Ploutos est-il aveugle? Pourquoi les gens font-ils mauvais usage de la richesse? Mais l'action continue quand même. Ensuite, donc, Timon, c'est mon extrait 13, donc Timon aborde, Hermès aborde Timon et il lui dit, ne fais pas de bêtises, mais Delskayon, Timon, il faut maintenant accepter ce trésor et va bêcher. Et donc, un petit dialogue assez facile. Timon passe à l'action, je passe à la citation 14, très joli passage, où donc il interpelle sa pioche, et il commence à creuser, et il voit apparaître l'or, donc un or magnifique, qu'il salue, il s'attendrit. Enfin, dernière partie de la pièce Timon, nous avons les flatteurs, donc une fois qu'il a l'or, attirés par la nouvelle qu'il a de l'or, donc les flatteurs arrivent d'abord un chanteur, et un bon convive, et vous voyez que cela se termine de façon très mauvaise pour lui, c'est ma citation 15, juste à la fin. Donc, que se passe-t-il? Et là, la mise en scène nous est suggérée. Paillais, au Timon, tu me frappes, Timon. Marturomai, je veux des témoins. Héraclès, you, vous voyez, prokelumai, c'est traumatos. Donc, aïe, je vais te traduire devant l'aréopage pour voix de fait. Et arrive également un flatteur, un philosophe, je n'y viens pas puisqu'on parlera tout à l'heure des mauvais philosophes. Et tout cela est donc construit comme une comédie. Alors, quel genre de comédie? On peut penser aux oiseaux, c'est très proche de la comédie des oiseaux, notamment quand les différents quémandeurs viennent solliciter leur admission dans la ville des oiseaux, coucou ville des nuées, et qui sont éconduits pareillement. Le dénouement, c'est des coups de bêche et des jets de pierre, c'est vraiment une farce. Nous sommes donc dans une comédie qui ressemble à la comédie ancienne, mais la figure de Timon est une figure qui avait beaucoup intéressé la comédie nouvelle. Et la figure même du monotropos, hein, celui qui vit seul, celui qui vit comme un sauvage. Et derrière Lucien, il est bien évident qu'il y a la figure de Ménandre. Donc nous savons que malheureusement, on a perdu pratiquement tout de Ménandre, mais on n'imagine pas à quel point Ménandre était considéré comme un personnage important pour l'Antiquité. Quand Propers, par exemple, dit qu'il va aller à Athènes, il dit qu'il va notamment découvrir le sel de Ménandre, vraiment. Et vous avez, par exemple, une formule d'Aristophane de Byzance, il dit « Ô Ménandre et toi, vie, lequel de vous deux a imité l'autre ?» Donc c'est un immense auteur dont on a perdu beaucoup de choses et que les dialogues de Lucien ont, pour nous, l'intérêt de nous montrer. Alors, il y avait un personnage un petit peu, un savant de la fin du XIXe siècle qui s'appelle Théodore Koch, qui avait vu des passages où Lucien ressemblait à un autre auteur qui s'appelle Alcifron. Il a mis bout à bout les morceaux, il a essayé de reconstituer les trimètres iambiques, il a essayé de reconstituer le texte. Bien évidemment, ça ne tient pas debout, d'autant plus que les trimètres iambiques sont très proches du rythme naturel de la prose, et que cette idée ne tient pas vraiment la route. On ne peut pas vraiment reconstituer Ménandre à partir de Lucien, mais ce qu'on peut reconstituer quand même, c'est toute l'ambiance qu'avait cette comédie nouvelle, avec les personnages qui sont des types, les parasites notamment, les États, précisément, les jeunes gens, vous avez vu le petit jeune homme là qui vient, qui va retrouver l'autre, les intrigues de ces personnages. Donc on peut dire que d'une certaine façon, en lisant Lucien, on a le plaisir de réentendre d'une certaine façon ce qu'on a perdu par ailleurs, à savoir la comédie nouvelle, dont on a vraiment perdu beaucoup de choses. Donc nous sommes allés dans ce développement sur la comédie et nous avons complètement perdu notre fil, à savoir la philosophie. Or il ne faut pas lâcher ce fil, puisque nous avons vu, Lucien y tient profondément pour fabriquer, il espère que ce n'est pas un hippocentaure, du moins, du vin miellé. La comédie, on la voit quand même dans la philosophie, on la voit quand même dans la comédie. Le dernier extrait que je vous ai donné, c'est précisément l'extrait 16, hein, l'extrait de Timon. L'extrait 16 nous montre le mauvais philosophe. Et le mauvais philosophe, avec son avidité, je vous retraduis juste cela, c'est pour toi seul que je me suis mis en route, craignant que tu ne te laisses corrompre par une possession tellement calamiteuse et insidieuse, la richesse qui a causé tant de fois à tant de gens des malheurs irréparables. Si tu m'en crois, jette-la plutôt tout entière dans la mer, car elle n'est nullement nécessaire à un homme de bien qui sait voir la richesse de la philosophie. Mais ne la jette pas au fond, mon bon ami. Contente-toi d'entrer dans l'eau jusqu'à la ceinture, un peu en avant du rivage, sans autre témoin que moi. Donc, emu orontos munu. Donc, mais la philosophie est présente donc même dans la comédie. Mais je vous ai montré une comédie pure. Je vais prendre maintenant un dialogue qui est un dialogue philosophique pur, qui est l'Hermotimos. C'est le dialogue, donc Hermotimos, le personnage, on ne sait pas s'il a existé, il est sous le signe d'Hermès, d'ailleurs il va le lui rappeler, Hermotimos. Et c'est un dialogue qui est censé s'être déroulé vers 160, puisque Lucien dit son âge, il dit qu'il a 40 ans. Même si le dialogue peut avoir été écrit plus tard, il est censé s'être déroulé en 160. Donc, Lucinos est face à Hermotimos. Hermotimos est un personnage tout à fait émouvant. C'est un étudiant attardé. Il a 60 ans, mais il se précipite pour aller suivre les leçons de son maître, qui est un stoïcien, dont le nom n'est pas précisé. Il est passionné par l'étude, au point de ne pas dormir, de refuser de perdre un seul instant. Il est passionné tout au long du dialogue et il engage Lucinos à devenir stoïcien comme lui. Et il éprouve un désespoir violent quand Lucien, très méchamment, va le convaincre d'erreur. Et alors je vous ai mis plusieurs citations qui nous montrent que c'est un dialogue, et mon père l'a beaucoup dit, qui est un dialogue fondé sur l'aporie, un dialogue complètement aporétique. Regardons par exemple la première citation, je vous ai mis en... Donc, je prends juste la fin, donc à partir de Issos, apparemment, donc, c'est pour mon malheur, ce n'est pas pour mon bonheur, que je suis sortie aujourd'hui de ma maison et que je t'ai rencontrée. Je croyais toucher à la réalisation de mes espérances et tu m'as plongée dans le doute en me démontrant que la découverte de la vérité est impossible puisqu'elle exige autant d'années. Et c'est vraiment, on a le mot aporia, es aporias feron. On va avoir l'image, autre image qui est assez ressemblante à certains textes qu'on trouve chez Platon. Tu m'en sers, Lucien, et tu me réduis esthénone dans un coin. Tu m'accules dans un coin, tu me cernes et tu me pousses dans un angle, alors que je ne t'ai fait rien de mal. Citation 19. Je ne comprends pas ce que tu veux avec tes filets, toujours l'image. Ce qui est sûr, c'est que tu m'enfermes. Et il est au bord des larmes, il dit... je suis sur le point de pleurer. Que m'as-tu fait ? La citation 20, si vous voulez. Que m'as-tu fait, Lucinos ? Tu as réduit mon trésor en cendres. Apparemment, toutes ces années et cette grande fatigue auront été peine perdue. Évidemment, ce que Lucien attaque, ce n'est pas la philosophie, mais ce sont les sectes. Hein, le deuxième titre du dialogue, c'est Peri Aireseon, sur le choix des écoles, sur les écoles philosophiques. Il veut dire qu'il n'y en a pas. La morale de Lucien est tout sauf platonicienne quand même, c'est une morale de l'action. Et il va lui dire par exemple, je vous reprends juste la citation 22, « Tu n'as pas encore compris que la vertu réside dans l'action, c'est-à-dire dans la pratique de la justice, de la sagesse et du courage. » Donc, un retour à une morale pratique, il lui dit un peu plus loin, « Je veux que tu te lèves, que tu accomplisses les tâches nécessaires. » Je passe un peu parce que le temps passe, mais il lui donne il donne de, une jolie petite fable. D'ailleurs, il lui dit, c'est comme un homme qui tue, il ne faut pas te désespérer. Un homme assis sur le rivage comptait les vagues, il se trompa. Le renard lui dit, pourquoi t'attrister? Ne t'en occupe plus, recommence à compter maintenant. Et je vais terminer sur quelques métaphores qui sont liées à la philosophie. Une première jolie métaphore, c'est celle d'une cité où tout le monde est égal. Pour ceux, pour vous qui avez les œuvres où Lucien se présente comme le Syrien qui est mal adapté, cette idée que la philosophie unit tout, il y a le passage que j'ai mis en gras, peut peut-être vous intéresser. Donc, et on trouve tout le monde dans la cité, de nombreux barbares en sont citoyens, de nombreux esclaves, des hommes contrefaits, petits, pauvres, en un mot, quiconque le souhaite est admis. Première grande métaphore, vous la regarderez, je ne vais pas prendre le temps de la développer. Pour revenir à une autre métaphore qui va nous reprendre à celle du début, à savoir la métaphore d'une jarre. La métaphore de la jarre qui ne s'épuise jamais, c'est la citation que je vous ai mise en 25. Même si tu la bois tout entière, Pampola Pies, la jarre ne deviendra pas moins pleine et le marchand ne subira aucune perte. Plus tu puises, plus elle abonde, comme dit le proverbe. Nous sommes donc revenus aux métaphores que nous relevions au début de l'étude, la soif de parler ou d'être entendu, le vin miellé, qui est une alliance heureuse, à la différence de l'hypocentaure, entre la comédie et la philosophie. Donc, on peut se poser la question, au terme de cette petite promenade, est-ce que Lucien a vraiment accompli ce qu'il donne comme son originalité dans la double accusation et dans tuer un Prométhée dans les mots? Nous l'avons vu donc capable de travailler les deux extrêmes, d'écrire une vraie comédie, Timon, et un vrai dialogue philosophique, Hermotimos, même si dans ces deux textes extrêmes, dialogue et comédie s'entremêlent, on s'aperçoit qu'il est capable vraiment de tenir les deux. Maintenant, est-ce que c'était vraiment une originalité, une création? Et était-il le premier à le faire? En fait, c'est le genre du spoudo-geloion, vous savez, qui est déjà l'esthétique du banquet de Xénophon. Ce banquet qu'on rabaisse tellement par rapport à celui de Platon, alors qu'il est très riche aussi dans cette variété qui fait intervenir des personnages un peu comme ceux de Lucien plus tard, ces personnages marginaux de danseurs, d'acrobates, tous ces personnages. Et autre influence très certaine, c'est la satire Ménippée qui fonctionnait sur d'ailleurs l'alternance prose-poésie. On a quelques exemples de cela, je n'ai pas le temps de vous les montrer chez Lucien, mais le jeu... le contraste entre forme bouffante et fond édifiant. Donc, ce qu'on constatera, c'est l'habileté de l'amixis ou de l'acrasis. On sait que le symposiarque y choisit au début de chaque banquet si on mettra plus d'eau ou plus de vin. On a l'impression que Lucien fait un peu cela dans chacun de ses dialogues. Mais puisqu'il a parlé non pas de l'acrasis, du vin et de l'eau, mais de l'amixis, du vin et du miel, on se doutera bien que le miel... c'est ce qui est sucré, ce qui fait plaisir, et c'est plutôt la comédie, tandis que le vin, c'est plutôt la philosophie, comme on le voit dans l'Hermotimos, et on a l'impression donc que la dose est chaque fois un peu variée, mais que Lucien ne lâche jamais ces deux éléments, l'envie de faire rire et l'envie quand même de continuer à philosopher, ce que j'ai mis dans la dernière citation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas philosopher, mais puisqu'il faut philosopher, faisons-le autrement. Voilà. Donc c'était quelques petites citations comme ça pour vous réfléchir sur ce genre littéraire. Voilà.